Au quotidien, avec Hélène Denis.
C'est dans 10 jours. Savez-vous de quoi je parle? Noël, non, c'est un petit peu plus tard que cela. Nous sommes le 11 et dans 10 jours, nous serons le 21 juin. Et ce sera
ça va être l'été
officiellement. Oui, vous avez tout compris et bien deviné, cher Yvan Deslauriers. Ça va, Yvan?
Ça va très bien, merci.
Et oui, oui, ça va bien, merci. Avec un bon café, là, les choses se placent. Alors, Yvan, vous allez parler de marathon, un marathonien qui est assez phénoménal et admirable aussi.
Oui, c'est vraiment toute une histoire de cette personne qui a fait plusieurs marathons de suite. C'est une semaine complète. Puis là, j'essaie frénétiquement de le retrouver.
Oui, il s'appelle Manuel Cabral.
Oui, oui, c'est ça. Et il y a toute une histoire qui l'amène à faire ces marathons-là. Alors, puis il fait pas ça que pour le plaisir de courir, quoique déjà ça serait suffisant. Mais il fait ça aussi pour une bonne cause, pour les grands brûlés. Alors, je vous raconte un peu cette histoire qui part de très loin d'ici, en fait. Parce que notre ami, il vient pas de Laval, lui.
Ah non, ni du Canada, hein?
Ni du Canada non plus. Alors, c'est vraiment tout un parcours et toute une histoire.
Merci. Monique, bonjour.
Bonjour, Hélène.
Hey, Monique, vous allez faire plaisir à bien des gens, à commencer par Mathieu Tessier.
Oui, ah ben j'en suis heureuse.
Vous allez parler d'angine de poitrine.
Ben oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'en a pas entendu parler?
On parle du groupe, en fait, là, hein? On ne parle pas d'une condition de santé. Oui, on parle du groupe, on ne parle pas d'une condition médicale.
Non, exactement, exactement. En fait, ce duo que l'on sait originaire du Saguenay, il a une renommée internationale et entre autres, peut-être à cause de l'émission de Tout le monde en parle, mais surtout, il y a eu une captation de leur concert diffusée sur YouTube et vue par 15 millions de personnes, Hélène, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Transmusical, qui a lieu à Rennes. Alors, les frères Kleck et je ne sais pas si j'ai bien prononcé le deuxième nom.
Je pense que oui.
Ils proposent un répertoire, alors ça vient de leur site web, là, anti-arena rock instrumental cartonneux, qui, à la manière de la musique techno, s'articule autour d'un jeu dynamique d'ajout et de retrait de motifs sonores en constante métamorphose. Déjà, il faut relire pour bien saisir les subtilités de cette musique. Mais ce qui a attiré mon attention, vous le devinez, c'est qu'il y a un scientifique qui s'y intéresse. Un professeur en psychologie, qui s'appelle Oliver Cyrano Leon, qui nous explique pourquoi on pourrait aimer cette musique. Ce qui était particulier, c'est que ce n'est pas un Québécois, là, ce professeur.
Ah non?
Il enseigne à l'Universidad Europea de Madrid.
Alors, ça montre bien que le groupe est connu à l'international.
Exactement. Vous m'enlevez les mots de la bouche, Hélène. C'est exactement ce que j'allais dire.
Bon, et puis, non seulement... Ben, je voulais pas vous enlever les mots de la bouche, Monique.
Mais non, c'est gentil.
On est complices après tout. Et nous aurons l'occasion aussi d'entendre un peu d'angine de poitrine. Préparez vos oreilles.
Oui, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas si désagréable que
mais,
ça.
Je trouve que plus on écoute du angine de poitrine, plus on se laisse prendre par cette vibe, j'allais dire en bon français, là.
Vous avez bien raison. Et si on les regarde, c'est encore mieux.
Ah oui. On voit pas des points noirs.
J'ai fait l'expérience.
OK. Bon, bien, plus de détails tantôt, Monique, merci. Et nous aurons aussi la joie de rencontrer Manick Sillard-Titeka, qui est une Guadeloupéenne d'origine. Elle est psychologue, elle est entrepreneur culturel et elle a fondé la maison d'édition audio Une voix, une histoire, un projet qui est né du travail de Manick auprès de personnes en difficulté de lecture, comme des gens qui ont des déficiences visuelles, notamment. Et on terminera avec la chronique Actualité internationale en compagnie de François Larochelle, l'ancien diplomate du Canada, qui va nous parler de la situation à Cuba qui est dans un état critique.
les émotions fortes. Le vent se lève, les courants se mêlent, le ciel s'emporte. Je le dis depuis toujours, je ne sais pas dire je t'aime. Dis-moi pourquoi mon amour, je retombe toujours en amour quand même. Quand même, on n'est-tu pas quand on s'aime.
Esther Valeur et Karim Ouellet qui chantaient « L'amour est un monstre ».
À la une de la presse plus, des millions de vues pour de faux crimes. C'est un texte de Gabriel Bellan que je vous résume. Un compte Facebook populaire diffuse des vidéos de prétendues scènes de crimes au Québec qui semblent avoir été entièrement créées par IA, l'intelligence artificielle, bien que le compte mentionne qu'il s'agit de contenu généré par IA des fins de divertissement. Cette information est peu visible et de nombreux internautes croient que les événements sont réels. Ces vidéos qui cumulent des centaines de milliers de vues suscitent souvent des commentaires racistes, notamment lorsque les personnes représentées appartiennent à des minorités. La Sûreté du Québec confirme qu'aucun dossier réel ne correspond aux incidents montrés et s'inquiète des conséquences possibles de ces hyper-trucages. Des citoyens pourraient signaler de faux crimes à la police, entraînant des enquêtes inutiles et une mobilisation de ressources qui devraient être consacrées à de véritables urgences. Des experts dénoncent également le manque de régulation entourant l'utilisation de l'IA sur les réseaux sociaux. Selon le juriste Pierre Trudel, le principal problème est que les utilisateurs ont de plus en plus de difficultés à distinguer le vrai du faux. Toujours à la une de la presse plus, on parle du nouveau film de Spielberg, Steven Spielberg, Disclosure Day. Le pour et le contre, la critique n'est pas très, très enthousiaste. Il y a Marc Cassivi qui, lui, a donné 5,5 sur 10. Et Pascal Leblanc, qui n'a pas vraiment aimé, a été quand même généreux avec une note de 7 sur 10. Ensuite, Guy Laliberté veut récupérer un dépôt d'un million de dollars. C'est Vincent Larrain qui signe le texte à propos du milliardaire québécois qui ne veut plus du penthouse à 7 millions qu'il avait réservé au sommet de la plus haute tour résidentielle de Montréal. Face au délai de livraison engendré par la déconfiture financière du promoteur du Square Phillips, le groupe Brivia, le fondateur du Cirque du Soleil s'adresse au tribunal. Il souhaite récupérer les sommes qu'il avait versées jusqu'ici en dépôt. En tout, c'est plus de 1,1 million que Guy Laliberté réclame, une somme qui, affirme-t-il, pièce à l'appui, est détenue chez un notaire selon les documents consultés par la presse. Or, le richissime homme d'affaires ne peut simplement récupérer son dû puisque Brivia s'est placé à l'abri de ses créanciers en janvier. À la une du Devoir maintenant, le PEC renaît de ses cendres. La réactivation du programme de l'expérience québécoise annoncée mercredi hier par Québec était fortement attendue. Dessiner l'avenir des ateliers d'artistes, les ateliers Belleville revivent dans une ancienne usine textile sous un nouveau nom, mais avec le même objectif, offrir un lieu de création accessible dans la métropole. Ça fourmillait vendredi dernier au 545 de la rue Legendre-Ouest à Montréal. L'ancienne, entre guillemets, usine de guenilles, toute rénovée et renommée Lab 545, vivra ses premières portes ouvertes. Le Devoir a visité en primeur la bâtisse consacrée aux ateliers d'artistes. Ici, on ajustait, grimpé sur un escabeau dans les escaliers, le luminaire du plafond. Là, on préparait l'exposition. Plus loin, la salle de performance. Du 11 au 13 juin, des visites pour tous auront lieu sur les 5 étages où 70 artistes et quelques chiens vivent, créent et inventent dans un joyeux bordel de peinture, de broderie, de verre soufflé, d'électronique, de bois, etc. Et Le Devoir est au Mexique, fronde sociale face au mondial, l'ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2026 à Mexico se déroule dans un climat de tension sociale depuis le 1er juin, une grève nationale des enseignants et de nombreuses manifestations dénoncent les inégalités sociales, les mauvaises conditions de travail, la gentrification ainsi que le manque d'action face aux disparitions forcées au Mexique. Plutôt que de susciter un enthousiasme unanime, la Coupe du monde agit comme un catalyseur de frustration sociale et politique déjà présente dans le pays. Et à la une du Journal de Montréal, Gérer tout croche, rapport dévastateur sur le fiasco de la filière batterie. La moyenne au bâton, écrit Nicolas Lachance, du trio Legault, François Legault, Fitzgibbon, Pierre Fitzgibbon et Christine Fréchette dans la filière batterie, témoigne d'un échec. Le gouvernement de la CAQ qui a injecté des milliards en subventions par décret, sans analyse suffisante ni suivi adéquat des risques, conclut la nouvelle vérificatrice générale du Québec, Christine Roy. Résultat, les trois quarts des projets sont en difficulté. Et Québec a perdu des centaines de millions de dollars dans son aventure portée par l'espoir de devenir la batterie verte de l'Amérique du Nord.
La pièce Kamouraska de Cœur de Pirate.
Cœur de Pirate qui sera au Franco de Montréal, les Franco qui s'ouvrent officiellement demain. Et elle sera en spectacle avec le pianiste Simon Boisseau le vendredi 19 juin à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Yvan, c'est à vous. Racontez-nous cette histoire impressionnante de Manuel Cabral.
Oui, qui a fait, qui a couru 8 marathons en 8 jours. Sans prendre congé du travail en plus. C'est un article qui a été écrit par Catherine Harvey-Pinard, qui a été publié le 5 juin. Effectivement, 8 marathons en 8 jours sans prendre un congé du boulot. C'est ce qu'a fait Manuel Cabral du 24 au 31 mai pour son neveu, pour tous les grands brûlés, pour inciter à bouger. Au bout du fil, mardi matin, Manuel Cabral semble en pleine forme. Mardi matin, c'est après qu'il ait fait tout ça. Ça ne fait pourtant pas 48 heures qu'il a terminé son 8e marathon en autant de jours. Moi, j'en ai jamais couru des marathons, alors je peux pas comparer, mais juste un pour moi, ça serait un exploit extraordinaire que j'aurais peut-être pas dans la vie actuelle. Alors, 8 dans la même semaine, ça dépasse mon imagination.
Il faut Et celle que... de la plupart des gens.
Et probablement celle de beaucoup de monde, effectivement. Il faut dire que c'est pas le premier défi du genre que l'homme de 51 ans se lance en marge de la course des pompiers de Laval. Il y a quelques années, il avait décidé de parcourir toutes les rues de Laval. C'est un total de 3100 kilomètres.
Mais c'est drôle, vous disiez qu'il ne venait pas de Laval.
Oui, c'est vrai. Mais j'avais pas l'article devant moi au moment où on avait fait le début de l'émission. Oui, c'est peut-être resté dans mon subconscient.
Peut-être.
Alors, il a aussi, à deux reprises, couru 100 km d'une traite. Moi, j'ai fait ça à vélo, puis j'étais fatigué au bout. Alors, à la course, là, il y a toute mon admiration. Et l'année dernière, il a réussi 14 demi-marathons, donc 14 fois 21 kilomètres. Chaque fois, M. Cabral a récolté des fonds pour la Fondation des pompiers du Québec, qui lui tient particulièrement à cœur. On y reviendra plus tard dans l'article. Il dit, « Après mon défi de l'année passée, j'ai continué à courir en moyenne 21 kilomètres par jour, donc un demi-marathon chaque jour, pendant 365 jours. Et il nous explique ça comme s'il s'agissait d'une banalité.
Oui.
Alors, il a calculé qu'il avait fait en moyenne 7000 kilomètres l'année dernière. 7000 kilomètres, là, c'est, je pense, c'est Montréal, Vancouver, aller-retour, il me semble. Faudrait que je regarde.
Un vrai Forrest Gump.
Oui.
Il n'arrête pas.
De fait, il était vraiment, vraiment bien préparé pour ses 8 marathons qu'il avait planifié du 24 au 31 mai, de façon à entamer le 8e du lot en même temps que le départ de la course des pompiers de Laval. Le dimanche 24 mai, donc, M. Cabral a couru ses 42,2 premiers kilomètres à Laval. Les 5 jours suivants, du lundi au vendredi, il se levait à 4h45 pour se rendre au travail. Il est opérateur de machines en ébénisterie. Il travaillait de 5h30 à 14h45. Puis, il se dirigeait vers la caserne 2 où il courait chaque jour son marathon. Le plus difficile, il nous dit, c'était le mercredi. Si j'étais un petit peu fatigué, pas physiquement, mais mentalement, parce que j'avais beaucoup de choses à gérer ici avec les projets d'ébénisterie. C'est vraiment un être hors du commun. Le marathon du vendredi a aussi amené ses défis, puisqu'il a eu lieu sous la pluie et les orages. Le dimanche, 31 mai, M. Cabral s'est finalement élancé pour son ultime marathon, celui de la course des pompiers, qu'il a d'ailleurs fini en 5e place avec un temps de 2h46 minutes et 54 secondes. Il a amassé plus de 4 000 $ de dons. Manuel Cabral est né dans une famille défavorisée aux Açores. C'est pour ça que je disais qu'il était né loin de Laval. Un petit archipel du Portugal. Son père est mort quand le garçon avait 2 ans. Quand le jeune homme a questionné sa mère sur les raisons de sa mort, 4 ans plus tard, sa vie et sa mentalité ont basculé. Elle m'a dit, il buvait beaucoup, il fumait beaucoup, il était asthmatique. Alors il s'est dit, je me suis mis dans la tête que je n'allais pas faire comme mon père, que je n'allais pas boire, fumer, je voulais bien manger et faire du sport. Alors, ça donne bien aux affaires, il y a des plages. Alors, il s'est mis à courir sur la plage dans le sable. ça lui évitait d'acheter des souliers pour lesquels il n'avait pas les moyens. C'est un peu là qu'a commencé son amour de la course à pied. Faisons un saut dans le temps de quelques années. M. Cabral est maintenant dans la vingtaine quand une autre tragédie a frappé sa famille. Un jour qu'il venait de quitter la maison de sa sœur, il a croisé des camions de pompiers sur son chemin. Inquiet, il a fait demi-tour. Une chandelle tombée sur un matelas avait fait des ravages dans la chambre de son neveu, âgé de tout juste 2 mois. Ils l'ont sauvé, mais le côté droit de sa tête et de son visage était tout brûlé. Nous habitions une île, donc il n'y avait pas de moyen de traiter des brûlures comme ça. Il fallait l'emmener à Lisbonne, à 2 heures d'avion. Ma sœur n'avait pas les moyens. Ça a été difficile pour elle. À la fin, on a réussi à traverser ça, mais la marque est restée pour le reste de sa vie. Manuel Cabral a déménagé au Québec 2 ans après l'événement, en 1998, après avoir rencontré l'amour. Rapidement, il a découvert l'existence de la Fondation des pompiers du Québec, la seule province qui vient en aide aux grands brûlés. Il dit « Ça m'affecte beaucoup parce que là-bas, aux Açores, il n'y avait pas ça. Je me suis dit « Je ne peux pas aider mon neveu, mais je vais aider n'importe quelle personne qui est touchée par ça. » Alors, M. Cabral nous parle avec émotion des difficultés que vivent les grands brûlés, l'intimidation, le rejet. On ne sait pas la souffrance mentale et physique qu'ils vivent, laisse-t-il entendre. C'est pour ça qu'il ne se plaint pas de sa souffrance quand il court, quel que soit le défi. Sa souffrance, rappelle-t-il, est « temporaire », avec des guillemets. Une semaine après le marathon, tu souffres un peu, c'est musculaire, mais la souffrance des grands brûlés, c'est pour la vie. Puis ça m'a fait sourire cette phrase-là parce qu'il dit une semaine après le marathon, mais il en a couru 8. Alors j'imagine qu'une semaine après le premier marathon, il devait souffrir pas mal, ouais, quand même. Alors que notre entretien tire à sa fin, M. Cabral insiste sur une chose. Ses défis physiques annuels ont aussi un autre objectif, celui de rappeler à tous l'importance de bouger. Il dit « c'est le sport qui donne la force mentale et physique pour continuer ». Donc, c'est un article qui présente une personne vraiment hors de l'ordinaire. Il s'appelle Manuel Cabral. C'est dans un article de Catherine Harvey-Pinard dans la presse du 5 juin. Ça s'appelle « 8 marathons en 8 jours sans prendre congé du travail ».
Merci,
Yvan. Et je poursuis juste rapidement. Parce que vous m'avez fait une petite remarque, Hélène, il y a 2 semaines, quand je parlais du parcours de Shauna Burke.
Oui. Et
vous disiez qu'il n'y avait pas eu d'article dans les journaux de cet exploit-là.
Ça a changé depuis.
Oui, il y a quelqu'un qui écoute notre émission.
Sûrement.
Parce que il y a un article dans le Journal de Montréal et dans la presse depuis ce temps-là sur le parcours étonnant et fascinant de cette personne qui s'appelle Shauna Burke.
On n'est pas là pour rien. On sert à quelque chose.
On ne sait pas, puis on s'aperçoit qu'on sert vraiment à quelque chose. L'actualité nous écoute.
Il rêvait d'une ville étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Il rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre, il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout drapé de diamants et de des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouvé mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Soleil sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. Il a dit, je retourne en arrière, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a dit, je retourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux sur son lopin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu. Au reflet de la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux.
Francis Cabrel, les murs de poussière.
Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu du Francis Cabrel là, au quotidien, alors on en profite. Merci d'écouter cette émission sur Canal M, la voix de l'inclusion. Et on est très inclusif côté musique, entre autres. Angine de Poitrine, bien, je sais qu'Angine de Poitrine fait, bien, j'allais dire l'unanimité, c'est pas vrai. Hein? Il y en a qui détestent, qui sont plus capables. Et il y en a qui adhèrent et qui comprennent pas pourquoi ils aiment ça. Alors, il y a Monique qui va nous expliquer pas mal le phénomène Angine de Poitrine, pourquoi on aime une musique qu'on ne comprend pas vraiment. Mais je pense qu'on n'est pas obligé de comprendre la musique pour l'apprécier. Mais plus de détails à la chronique de Monique. Mais avant, on va écouter une pièce d'Angine de Poitrine intitulée « UTZP », une pièce de 7 minutes. Alors, on va en écouter quand même un bon extrait. Restez avec nous.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
angine de poitrine. Monique Kirouac, merci donc de nous offrir la chance de faire entendre angine de poitrine à nos auditeurs et auditrices. Vous allez en parler. Pourquoi on aime une musique qu'on ne comprend pas vraiment? Vous avez trouvé ce texte dans la conversation.
Oui, du 3 juin dernier, et comme je disais, c'est sous la plume de notre professeur qui s'appelle Oliver Serrano-Leone, et donc qui enseigne à la maîtrise en psychologie à l'Universidad Europea de Madrid. Alors, bon, si on accède à une vidéo, par exemple sur YouTube, ben, à l'écran apparaissent deux personnages masqués dont l'esthétique oscille entre l'artisanal, l'absurde et l'inquiétant. Ils commencent à jouer. La guitare ne sonne pas comme on s'y attendrait. Certaines notes semblent se loger entre les notes que nous connaissons. La batterie avance avec précision, mais pas toujours sur des chemins prévisibles. La première réaction est la perplexité. La deuxième, la curiosité. Et avant même de l'avoir dessinée, on continue à regarder. C'est en partie ce qui explique le phénomène récent d'angine de poitrine, un duo expérimental québécois qui s'est particulièrement fait remarquer par sa combinaison de rock mathématique, de masque en papier mâché, d'humour surréaliste et d'utilisation de guitares microtonales. Leur passage à KEXP, K-E-X-P, en a fait une curiosité virale, non seulement pour leur son, mais aussi pour la difficulté de les ranger dans une case connue. Du point de vue de la psychologie, ce cas est fascinant, car il nous force à poser une question plus large. Pourquoi peut-on aimer une musique qu'on ne sait pas, au départ, comment interpréter? Alors, revenons toujours à notre cerveau. Écouter de la musique, ce n'est pas recevoir des sons passivement. Le cerveau anticipe. Il s'attend à ce qu'une mélodie continue dans une certaine direction, à ce qu'une tension harmonique se résolve, à ce qu'un rythme retombe à un moment donné. Une grande partie du plaisir musical vient de ce jeu délicat entre confirmation et surprise. Quand tout est trop prévisible, la musique s'aplatit. Quand tout est trop imprévisible, ben elle bascule dans le chaos. Entre ces deux extrêmes, phew, se trouve une zone particulièrement fertile, la musique qui défie nos attentes sans pour autant les détruire. Des études sur la prévisibilité, l'incertitude et le plaisir musical ont montré que nous tendons à préférer des niveaux intermédiaires de complexité. Suffisamment d'ordre pour nous orienter, suffisamment de surprises pour nous tenir en haleine. Et c'est précisément ce terrain qu'angine de poitrine occupe. Leurs chansons peuvent sembler étranges, mais elles ne sont pas du pur désordre. Il y a de la répétition, du rythme, des motifs, une énergie physique. La batterie offre une structure reconnaissable, tandis que la guitare instille une sensation d'instabilité. Le résultat, ben, c'est un mélange psychologiquement efficace. L'auditeur ne saisit pas tout à fait ce qui se passe, mais il n'est pas non plus complètement perdu. Alors revenons à la guitare, parce qu'on parle de microtons. Alors l'utilisation des microtons mérite qu'on s'y attarde. Dans la musique occidentale courante, l'octave est divisée en 12 demi-tons. Le piano, la guitare standard et la grande majorité de la pop s'inscrivent dans ce cadre. La musique microtonale, elle, utilise des intervalles plus petits ou différents de ceux qu'impose ce système. C'est pourquoi une guitare microtonale peut sembler, à la première écoute, désaccordée. Mais cette impression ne signifie pas nécessairement qu'elle l'est. Elle signifie que le cerveau compare ce qu'il entend à ses schémas antérieurs. Si une note atterrit là où notre oreille façonnée par notre culture ne l'attendait pas, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons l'interpréter comme une bizarrerie, une tension, voire une erreur. Ce qui n'est pas tout à fait le cas. Parce qu'elle ne sait pas ce que fait angine de poitrine. Mais c'est éliminer le malaise. Ce qu'ils font, c'est l'intégrer à l'expérience. Cela rejoint une idée centrale de la psychologie de la musique. Le plaisir ne vient pas uniquement de ce qui est agréable, doux ou familier. Il peut aussi naître de la tension, de l'ambiguïté et de la résolution partielle, d'une attente. La musique active des circuits cérébraux liés à la récompense, à l'anticipation et à l'émotion. Des études en neurosciences sur le plaisir musical et la prédiction ont suggéré que ce plaisir surgit quand le cerveau détecte des schémas, génère des attentes, puis constate des écarts significatifs par rapport à celles-ci. Ce n'est pas seulement ce qui sonne bien qui nous touche, c'est ce qui nous oblige à réorganiser ce que nous nous attendions à entendre. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à faire cette réorganisation. C'est pourquoi une proposition apparemment difficile peut devenir addictive. La première écoute produit l'étrangeté. La deuxième permet de reconnaître un motif. La troisième transforme l'étrange en familier. Et au fil de ce parcours, le cerveau récolte une petite récompense. Il a partiellement apprivoisé le chaos. En gêne de poitrine, ce n'est pas que du son. C'est de l'image, du geste, du théâtre, des personnages. Les masques, l'esthétique absurde et la présence physique des interprètes influencent la façon dont on écoute. Des chercheurs sur la perception musicale en tant qu'expérience multisensorielle ont montré que les éléments visuels d'une performance ne sont pas de simples ornements. Ils peuvent modifier l'interprétation émotionnelle, structurelle et esthétique de ce qu'on entend. Ce n'est pas pareil d'écouter une pièce microtonale hors contexte et de la voir jouer par deux personnages qui semblent sortir tout droit d'un rituel à la fois comique et artisanal. L'image peut servir de clé de lecture. Ce n'est pas une erreur, c'est un jeu. Ce n'est pas de la maladresse, c'est de l'intention. Ce n'est pas du bruit, c'est un langage. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que l'information visuelle influe sur l'évaluation d'une performance musicale et que les gestes de l'interprète modifient ce que nous percevons. Alors, je fais une petite parenthèse, Hélène, parce que j'ai tout de même été regarder la vidéo qui a été captée justement à Rennes. Mm-hmm. Et c'est tout à fait juste. Quand on les regarde attentivement, on voit bien qu'il y a une complicité entre les deux musiciens. Observer les pieds, du guitariste, c'est quelque chose.
Ah oui, hein?
Oui.
Des jeux de pédales. Des
jeux de pédales. Alors, on sait qu'il va enregistrer certains sons qui vont revenir en récurrence. Enfin, c'est assez impressionnant, je trouve. Alors, je vous invite à aller visionner cette vidéo. Dans un écosystème saturé de musique lisse, et de recommandations algorithmiques, cette dimension physique et scénique prend tout son sens. Angine de poitrine semble offrir quelque chose de difficile à simuler, la présence, la singularité manuelle, l'imperfection signifiante. Le succès d'Angine de poitrine tient peut-être à un paradoxe contemporain. Jamais nous n'avons eu accès à autant de musique, et pourtant, une grande partie de l'expérience culturelle semble de plus en plus optimisée pour ne pas déranger. Les plateformes apprennent nos préférences et nous renvoient des variations de ce que nous aimions déjà. La surprise est administrée à dose homéopathique. Angine de poitrine ne prouve pas que tout ce qui est étrange finit par plaire. La singularité seule ne suffit pas. Ce qui fonctionne, c'est la combinaison. Déviation et structure, microton et groove, masque et précision, déconcertement et plaisir physique. Au fond, ce n'est peut-être pas malgré notre incompréhension que nous aimons cette musique, c'est grâce à elle. Alors voilà, peut-être que vous apprécierez, si vous ne le faisiez pas avant, cette musique un peu hors du commun.
Absolument. Angine de poitrine, j'étais sur leur site, anginedepoitrine.com, et je me dis, ils vont devoir engager une doublure. Ils sont partout, de Joliette au Japon, en passant par Montréal, Saguenay, Los Angeles, Portugal. C'est affolant de voir toutes les dates. Alors, j'espère qu'ils vont quand même prendre le temps. Je parle de deux au pluriel parce qu'ils sont deux. Mais j'espère que le duo aura le temps quand même de souffler un peu. Là. Ils ont beau aimer ce qu'ils font.
Et puis, les billets se vendent en quelques minutes. Hein, oui. Hélène, c'est vraiment...
Renversant, c'est un phénomène.
Oui.
On va écouter une autre pièce.
Oui. L'article nous incite aussi à nous permet en fait de mieux comprendre de quoi il s'agit, oui. De qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau en fait.
Alors pour ceux et celles qui n'auraient pas entendu parler, comme vous disiez, peut-être que certaines personnes ont vécu sous une roche ces derniers temps, mais on peut voir profiter de la vidéo sur YouTube. Et c'est à partir de cette vidéo-là, ce spectacle-là où tout a commencé, où le groupe a été propulsé, et on va entendre. C'est quoi la pièce, Mathieu?
Fabien.
Angine de poitrine, imaginez-vous donc que c'est la sonnerie du réveil matin de notre Mathieu national. Ça me surprend pas du tout. Alors, on continue avec vous, Monique et Yvan. Yvan, des parcs où l'accès est gratuit, on aime ça, ça.
Mais avant ça, j'aimerais savoir si Mathieu, ça y arrive de faire le snooze avec cette musique-là pour comme réveil, mais enfin.
Non, je l'écoute au complet, j'écoute la pièce au complet.
Oui, j'imagine. Puis là, t'es debout, puis tu danses, puis tu t'habilles.
Finalement. Exactement.
OK. Donc, c'est dans le magazine Espace, dans le magazine, oui, en fait, sur le site Espace. Juste un instant, il faut que je réponde à quelqu'un. OK.
Oui, allô, on est en direct, monsieur.
Oui, je sais, sur Internet. Donc, c'est l'accès aux parcs régionaux du Québec qui sont gratuits tout l'été et tout l'automne. C'est une mesure qui s'appelle Accès Nature qui a été mise en place en 2024 et en 2025 et qui avait fait déjà le bonheur des amoureux de plein air et de nature à cette époque-là. Elle est de retour pour l'été 2026 et même l'automne qui va suivre. C'est le gouvernement qui a annoncé ça lundi, le 8 juin, un investissement de 3,4 millions de dollars à destination de l'Association des parcs régionaux du Québec, le PARC, et la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC. Pour le premier, pour le parc, les 850 000 $ serviront à offrir des accès gratuits à la majorité des parcs régionaux accrédités. Dès hier midi, le 10 juin, il était possible de réserver des billets, je ne sais pas s'il y en a encore, pour la période allant du 11 juin au 31 octobre 2026 via le site toutlemondedehors.ca. Parc estime que cette mesure permettra d'offrir plus de 55 000 accès journaliers sur 2 ans, comme nous l'explique Marie-Ève Saint-Onge, qui est la directrice des communications, du marketing et des relations publiques de l'association. Elle dit d'abord l'été-automne du 10 juin au 31 octobre, puis cet hiver, avec des dates à confirmer, et ce, jusqu'à épuisement des fonds pour chacun des parcs. En répartissant le montant en 4 enveloppes distinctes, nous serons en mesure d'offrir de la gratuité pendant 2 ans. Et là, il y a la liste d'une 40aine de parcs partout au Québec. Ça va de la base de plein air de Sainte-Foy, en passant par le parc nature du Cap-Saint-Jacques à Montréal, et le parc régional Kiamika dans les Laurentides, jusqu'à la vallée Bras du Nord dans la capitale nationale, et encore, et encore, et encore. Voilà.
J'ai vérifié, il reste encore des billets pour profiter de ces accès gratuits dans les parcs. Auprès de qui les chats miaulent plus, Monique?
Drôle de question, hein?
Oui.
Mais c'est dans la section pop. Fun facts de ma revue Epsilon. Alors, c'est auprès des hommes, Hélène.
Ah oui, pourquoi?
Alors, observez que seul le sexe a un effet significatif sur les fréquences des vocalisations des chats était quelque peu surprenant au vu des études antérieures, nous révèle Yasemine Sagirli-Demirbas. La chercheuse a équipé 31 personnes de caméras pour filmer les réactions de leurs chats quand elles rentraient chez elles. Les autres facteurs testés, le sexe du chat, son âge, sa race, s'il était acheté ou adopté, le nombre de congénères dans le foyer, n'ont rien donné. Seul le sexe du maître influence le comportement de l'animal. Les vocalisations seraient apparues au cours de la domestication afin d'attirer l'attention humaine, et nous savons que les femmes sont généralement plus attentives aux états émotionnels et aux signaux de communication que les hommes. Une explication plausible est donc que les chats doivent déployer plus d'efforts pour obtenir une réponse de leur part.
OK, j'ajouterai rien à ça. Vélo, les 8 plus beaux itinéraires de cyclotourisme au Québec, vous devez en connaître quelques-uns.
J'en connais quelques-uns, effectivement, avec beaucoup de plaisir. C'est toujours sur le site Espace. Et comme l'été finit par commencer, c'est intéressant de planifier peut-être. Il y a des gens qui planifient leurs vacances autour d'itinéraires de cyclotourisme au Québec. Et sûrement parmi ceux-là, les deux premiers, c'est la Véloroute des Bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un circuit en boucle qui fait le tour complet du lac Saint-Jean en traversant 15 municipalités et la communauté Innu de Matiwatch. Faible dénivelé, paysage agricole ouvert sur l'immensité du lac, village accueillant à intervalles réguliers, la Véloroute des Bleuets est l'une des expériences cyclables les plus accessibles et les mieux organisées au Québec. C'est idéal pour un premier séjour en cyclotourisme. Pas loin de là, il y a la Véloroute du fjord du Saguenay qui, elle, permet, en sillonnant les deux rives du fjord, cet itinéraire offre des panoramas à couper le souffle sur l'un des plus imposants fjords d'Amérique du Nord. Des villages se succèdent à une cadence d'environ 20 km et des navettes maritimes permettent de traverser d'une rive à l'autre pour éviter les portions les plus exigeantes. La Véloroute du fjord se connecte directement à celle des Bleuets pour les plus aventureux. Alors, juste pour vous donner une idée, la Véloroute des Bleuets, c'est 256 km, c'est une boucle. Tandis que celle du fjord, c'est 435. Alors, c'est quand même, c'est assez costaud, mais vous n'êtes pas obligé de faire toute la distance. Vous pouvez vous arrêter à des villages, siroter une bonne bière ou le vin du coin, ou etc. Il y a plein de belles choses à faire dans ce coin.
Prendre le temps.
Prendre le temps. Pour les autres, je vais juste les nommer, je ne les décrirai pas, mais il y a la Véloroute gourmande en Montérégie et Canton de l'Est, le Petit Train du Nord, bien connu, du côté des Laurentides, le Petit Témis au Bas-Saint-Laurent, celle-là, j'en ai fait des parties, c'est superbe, c'est dans le bois, c'est de la petite gravelle concassée, c'est vraiment superbe à faire. La Véloroute des Draveurs en Outaouais.
72 kilomètres, celle-là. C'est quand même pas trop décourageant.
Oui, ça aussi, on peut en faire seulement que des parties.
À son rythme.
Puis on amène la voiture, puis ça se fait vraiment très bien. La route des navigateurs, ça c'est le centre du Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent. Les paysages sont à couper le souffle de ce côté-là, de Nicolette à Sainte-Luce. Et finalement, le tour de la Gaspésie, ça c'est pour les jambes fortes. 885 kilomètres de côte et de toutes sortes d'affaires.
Ah oui.
Ça, c'est pour les gros rouleurs.
Et c'est pas mentionné, je pense, là, mais le tour de l'île aux Coudres, c'est intéressant aussi. C'est pas trop décourageant, oui. Ça?
Oui, puis le tour de l'île d'Orléans aussi.
Oui.
Ça, c'est une soixantaine de kilomètres, me semble, quelque chose. Moi, quand j'ai fait ça, j'avais juste la première strophe de la chanson.
Le tour de l'île.
Le tour, oui.
Pourquoi? C'est quoi pendant... pour supporter le difficile?
Oui, c'est ça. Fait que j'ai juste chanté cette ligne-là pendant 2 heures. ou 2 ou 3 heures, une fille.
Bon, alors, oui, mais c'est quand même une belle ligne.
Oui, c'est ça. Il y a pire.
Oui, avec les beaux arrangements de Françoise Dompierre, c'est encore mieux. Pourquoi les nuages prennent-ils les couleurs de l'arc-en-ciel? Belle question. Vous avez trouvé une réponse dans la presse, Monique.
Oui, exactement. Alors, la formation d'arc-en-ciel après ou pendant une averse, ça, c'est bien connu. Mais il est vrai que parfois, ce sont carrément les nuages qui revêtent une palette multicolore. Et pour ce faire, il y a des conditions particulières qui doivent être réunies. Il faut des nuages composés de gouttelettes d'eau plutôt que de cristaux de glace et qui sont proches de l'axe du soleil. Alors, dans ce cas, il se produit un phénomène qui s'appelle l'iridescence. Et c'est ce que nous explique Stephen Buzinger, qui est climatologue de l'Université d'Hawaï et auteur de nombreuses études sur les arcs-en-ciel, si jamais le sujet vous captive. Ce phénomène est semblable à la formation des arcs-en-ciel de pluie, c'est-à-dire quand la lumière frappe les gouttelettes d'eau et qu'il se forme un mélange de réfraction, ça c'est le changement de direction des rayons lumineux, et de réflexion variable selon la longueur d'onde de la lumière et donc de la couleur. Alors, il y a aussi des arcs-en-ciel sur des nuages créés par une interaction avec les montagnes. Par de l'ombre d'un avion sur un nuage, nous ajoute M. Buzinger. Et il y a des arcs-en-ciel créés par l'interférence avec le brouillard qui peuvent avoir l'air accroché à un nuage. Ces arcs-en-ciel de brouillard sont surnommés « gloire » par les spécialistes. Je trouve que ça nous fait rêver, ça nous amène ailleurs, Hélène.
Complètement, c'est tellement beau. Merci, Monique, de nous faire rêver. Et là, vous nous ramenez les deux pieds sur terre, parce qu'il nous reste une minute environ pour la capsule linguistique. Mais vous m'étonnez, biaisé, je ne pensais pas que c'était un anglicisme.
Bien, on nous dit que c'est un calque, c'est Guy Bertrand qui nous dit que c'est un calque de l'anglais qu'on peut remplacer tout simplement par tendancieux, en parlant d'une chose, partial, en parlant d'une personne, ou subjectif, au sujet d'une personne, et en parlant de... C'est ça, oui, et le mot subjectif aussi peut être utilisé. Alors, on dira, par exemple, que les propos d'une personne sont, au lieu de biaisés, on dira qu'ils sont tendancieux ou subjectifs. D'un jury, on dira qu'il est partial, selon le contexte, et que les membres du jury ont des préjugés. On peut aussi dire qu'une personne manque d'objectivité. Voilà.
Super. Alors, rappelez-vous que pour supporter le difficile et l'inutile, il y a le tour de l'île. 42 000 de choses tranquilles pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été-hiver, il y a le tour de l'île, l'île d'Orléans. Quelle chanson extraordinaire. Merci. C'est grâce à vous, Yvan, là, que... J'ai eu le goût d'approfondir les paroles de Félix Leclerc. C'est un album qui a tourné beaucoup, beaucoup dans ma famille. Et une chanson dont on se tanne pas. Et il y a, comment il s'appelle, Louis-Jean Cormier qui l'a reprise.
Oui, oui.
Avec,
qui l'a réarrangé.
Oui, et c'est très beau aussi comme version. Mais merci à vous deux, Monique et Yvan. Je vous souhaite une belle journée. On se retrouve, je l'espère bien, la semaine prochaine.
Au revoir, au plaisir.
Au revoir.
Au plaisir. On parle d'une voix, une histoire, une maison d'édition et plateforme de livres audio après la pause.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
À l'occasion de la semaine Canada-Caraïbes qui se déroule en ce moment, nous recevons Manik Siyar-Titeka, psychologue, entrepreneur culturel et fondatrice de la maison d'édition audio Une voix, une histoire. Bonjour Manik.
Bonjour Hélène, bonjour à tous nos auditeurs.
Merci beaucoup d'être avec nous en cette belle journée, j'allais dire belle journée. Il n'y a pas de soleil, mais vous êtes arrivée avec votre blouse fleurie magnifique.
Merci beaucoup.
Et donc, vous êtes au Canada dans le cadre de la semaine Canada-Caraïbes. Ça représente quoi pour vous cet événement et quels sont les objectifs de votre visite?
Alors, c'est vrai que cette semaine Canada-Caraïbes, elle a été mise en place par Audace au Féminin, hein, via Dominique Rau, et en Guadeloupe par la Fédération des toutes petites entreprises, la FTPE, et Myriam Rambanaï-Singh. C'était la volonté de, qu'on puisse construire un corridor entre le Canada et la Guadeloupe, sachant que nous sommes francophones,
oui.
À 5 heures de route, de vol, et surtout qu'il n'y a pas de décalage horaire. Donc, c'était vraiment la volonté d'avoir une perspective pour nos entrepreneurs guadeloupéens de façon générale. Et puis, pour moi, de rencontrer d'autres acteurs culturels, donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui les ICC, hein, l'industrie culturelle et créative, et voir dans quelle mesure, effectivement, via cette plateforme de livres audio que j'ai déjà, Une voix, une histoire, cette maison d'édition, comment on peut co-créer autour de cette inclusion, puisque comme j'aime à le dire, le livre doit être accessible à tous.
Oui, alors comment est née cette idée de créer Une voix, une histoire? C'était justement pour rendre le livre accessible à tous,
oui,
et à toutes?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, je suis psychologue. Je rencontre Jocelyne, 60 ans, qui, lors d'une réunion dans un établissement scolaire, vient me voir discrètement et me demande si je peux lui apprendre à lire. Et je lui dis que oui, donc on rentre dans un processus d'apprentissage de la lecture, donc les formulaires administratifs, mais pas le livre. Parce qu'il faut lire un certain nombre de mots à la minute pour entrer dans la compréhension. Mmh. Et là, je me dis, je ne peux pas fermer la porte et la laisser comme ça. Enfin, le livre, c'est l'imaginaire. Le livre, c'est le livre arbitre. Et je me dis que je vais faire une recherche. Je vais regarder si nos littératures existent en audio. Donc oui, elles existent, mais au format CD. C'est-à-dire que nous n'avons jamais investi le format numérique. Et donc, le format CD, on sait bien que les supports disparaissent. Et de là naît donc Une voix, une histoire, se dire que oui, le livre...
On est en quelle année?
On est en 2016.
2016.
Donc,
vous célébrez votre 10e anniversaire cette
année? Alors, 2016 officieusement, 2020 officiellement.
Okay.
2016, ça a été vraiment toute la partie technique, trouver des personnes capables, puisqu'on est dans l'innovation, en tout cas pour notre territoire, on est dans l'innovation complète. Donc, trouver quelqu'un capable de pouvoir créer une plateforme, enregistrer les livres audio, avoir un studio d'enregistrement. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et en 2020, officiellement, naît Une voix, une histoire.
Alors, derrière chaque livre audio, il y a un vrai travail de production, vous venez de l'évoquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases les étapes principales du choix d'un ouvrage jusqu'à sa mise à disposition pour le public?
Alors, c'est vrai que lorsqu'on a commencé, on s'est tourné directement vers les maisons d'édition, qui éditaient déjà des auteurs de la Caraïbe et de la diaspora. Donc, une sélection conjointe avec l'éditeur papier et moi-même. Mm-hmm. Après, par la suite, c'est le casting voix, parce que c'est la volonté de se dire, qui on met derrière? Et une double volonté, pas forcément trouver des professionnels du livre pour garder l'authenticité. C'est vrai que le professionnel de la voix, a tendance à être dans une case très stéréotypée. Oui, bonjour, voilà. On ne reconnaît plus nos accents. Et moi, ce que je voulais, c'est que vraiment, on puisse reconnaître nos accents parce que ce sont nos jeunes qui écoutent. Et s'ils ne reconnaissent pas, ils ne vont pas y adhérer. Donc, vraiment, trouver des amateurs, mais qui aiment lire et qui savent lire. Ensuite, donc, cette partie enregistrement, production pure et brute. Et après, en post-prod, à savoir donc, si on rajoute du bruitage, alors surtout sur la littérature jeunesse, puisqu'on n'a plus l'image. Donc, il faut pouvoir raccrocher l'enfant à un contexte grâce au bruitage. Et puis après, sur les autres œuvres, un peu moins de bruitage, puisque là, on est sur de la littérature adulte.
Donc, vous adressez autant aux jeunes, aux enfants qu'aux
adultes.
Tout
à fait. On fait vraiment tous les genres littéraires, jeunesse, romans, nouvelles, essais, pièces de théâtre, poésie. On fait vraiment... Et de la bande dessinée depuis peu.
Ça pique notre curiosité. On aimerait bien entendre ce que ça donne, là. Les auteurs qui font partie de votre catalogue, comment vous les choisissez?
Alors, aujourd'hui, c'est eux qui viennent vers nous. Aujourd'hui, on a vraiment des premiers manuscrits où les auteurs n'ont jamais édité en livre papier. On a un comité de lecture composé de 6 personnes, dont 2 journalistes, La volonté aussi d'avoir cet esprit critique hein, de nos littératures pour qu'on puisse offrir quand même de la qualité. Hein. Et après, ce comité de lecture, réunion d'équipe, et on décide si oui ou non le livre sera mis en audio tel quel ou s'il y a une adaptation. Parce que souvent, le livre papier n'est pas toujours adaptable tout de suite en livre audio.
Ah oui, il y a un travail d'adaptation.
Il y a un travail d'adaptation, puisqu'on est sur du discours direct, par exemple, on ne va pas dire, oui, il lui a répondu, il lui a dit, etc. Non, non, on va être, nous, sur un discours direct quand il y aura du dialogue. Et souvent, il faut demander l'autorisation à l'auteur avant de toucher à son texte.
Bien oui. Et habituellement, l'auteur est-il collaborateur?
Ils sont très réceptifs à nos demandes. Oui.
Et au fil des années, justement, vous avez développé plusieurs collaborations. Quels partenariats ont été les plus marquants dans le développement de votre maison d'édition, d'une voix, une histoire?
Alors, le développement le plus marquant, alors c'est un développement déjà vers l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes régulièrement en Côte d'Ivoire, au Salon international du livre d'Abidjan, où nous travaillons à mettre en voie également les littératures dites africaines, dites noires. Et avec audace, quand Spotify a annoncé qu'ils ouvraient une section livre audio, ils ont sorti un très bel article avec le nom des maisons d'édition principales et je leur ai envoyé un mail en leur disant qu'ils m'avaient oublié. Et ils m'ont renvoyé un mail.
Vous avez bien fait ?
Oui, ils m'ont renvoyé un mail en me disant oui.
Vous avez eu une réponse ?
J'ai eu une réponse. Deux semaines après, j'ai eu une réponse en me disant qu'ils seraient heureux de pouvoir collaborer avec moi. Parce que notre littérature a cette particularité, nous sommes sur un territoire caribéen qui est universel, qui est déjà international. We can talk English, puedo hablar en español sin tener problema. Nous ne pouvons pas les créoles et on parle français. Donc nous sommes déjà sur une dynamique internationale sur nos territoires.
Vous avez pignon sur rue là ?
Oui, aujourd'hui.
Vous êtes où ?
À Sainte-Anne, en Guadeloupe.
Ah oui. Ouais. On ira vous visiter.
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Justement, vous êtes en discussion, si je peux dire, avec Vues et Voix ici.
Exact.
Vues et Voix qui célèbre ses 50 ans cette année dans le cadre d'une démarche exploratoire. Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme association, comme synergie entre votre organisation et notre organisation?
Alors, c'est vrai que j'ai rencontré donc Marjorie Théodore.
Oui, que vous avez rencontré dans le cadre de cette semaine. Canada-Caraïbes.
Oui. Et la volonté, en fait, c'est d'être dans de la co-création. On est souvent seul derrière nos bureaux en tant qu'entrepreneur et je me dis que non, c'est à plusieurs qu'il faut construire les routes et ces chemins. Donc vraiment être dans une volonté de co-création, de voir dans quelle mesure les ouvrages aussi du Canada, de la communauté et au-delà, même les autochtones, les voix qu'on n'entend pas, j'aime à dire la voix des sans-voix, les retrouver donc sur cette plateforme et être accessible au plus grand nombre, créer des événements autour du livre audio. Elle m'a invité déjà pour le 3 décembre.
Marjorie?
Oui. Donc revenir et voir comment conjointement on peut mettre en place quelque chose d'encore plus grand et de plus universel.
Mais on souhaite que ça se concrétise, que ça fonctionne. Alors, vous avez appris l'existence de Vues et Voix par Marjorie Théodore, PDG, que vous ne connaissez pas, le Vues et Voix, ni Marjorie, là.
Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'étais déjà venue au Salon du Livre de Montréal via l'ANEC, donc Frédéric Saint-Julien qui m'y avait invité. Et effectivement, donc, je connaissais déjà des éditeurs comme M. Romney ou Mosaïque Interculturelle, mais je ne savais pas du tout que Vues et Voix existait. Et donc, ça a été une belle surprise, en plus avec une femme.
Oui.
C'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat au féminin chez nous est très complexe. Donc de voir une femme et de pouvoir vous rencontrer également et se dire que c'est possible, je repars vraiment avec la volonté de me dire qu'on va revenir très bientôt.
Oui, mais tant mieux, ça nous fait plaisir, ça va nous faire plaisir de vous accueillir de nouveau. Vous dites que c'est complexe chez vous en Guadeloupe d'être une femme, d'être entrepreneur.
Entrepreneur au féminin, oui, ça va être très complexe. Déjà, le regard du banquier n'est pas le même, que quand on est un homme. Bon, c'est le regard même des institutions publiques. On aura toujours plus de facilité à ouvrir les portes à un homme qu'à une femme. C'est vrai que ça peut être très complexe. On découvre qu'ici, en fait, il y a une réalité. Il y a une réalité où, justement, la femme est mise en avant. Au contraire, elle est incitée à. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'où cette volonté vraiment de corridor qui a été menée par la FTPE et de se dire que oui, nous, petites entreprises, comment on arrive à travailler avec vous. Mm-hmm. Et c'est excellent.
Alors, c'est excellent, cette maison d'édition, cette plateforme de livres audio dédiée à la valorisation de la littérature caribéenne et afro-caribéenne. Quand vous allez revenir, là, on va pouvoir, j'espère, explorer davantage.
Oui, tout à fait.
Et écouter aussi votre travail, les livres qui sont lus. Je rappelle que la maison d'édition s'appelle Une voix, une histoire. Et j'en parlais avec la fondatrice, directrice générale, qui s'appelle Manik Siyar-Titeka. Vous êtes au Québec encore pour combien de jours?
Alors, jusqu'à demain. Repartir demain, puisque alors je suis sur un film documentaire qui sera diffusé en Guadeloupe. Donc, il faut que je rentre pour
être présente
avec l'équipe. Ah oui, un
autre projet qui vous attend.
Exactement, tout à fait. Et au-delà de la littérature afro-caribéenne, on a aussi de l'indo-caribéen, puisqu'on a aussi une histoire avec l'Inde. Et c'est vrai que j'avais cette volonté vraiment de montrer que cette plateforme, elle ne souffre pas de couleur de peau. C'est vraiment une plateforme faite qui est à l'image de ce que notre société, elle représente.
Merci beaucoup, Manik Siyar-Titeka. Très heureuse de vous avoir rencontrée. Et bonne nouvelle, vous avez dit que vous allez revenir au début décembre.
Oui, je reviens début décembre.
Vous allez nous rapporter du soleil.
Je vous rapporte du soleil et effectivement les livres audio, qu'on puisse faire de cette expérience immersive d'écoute.
Ce serait formidable.
Avec plaisir.
Ce sera formidable. Merci.
Sera formidable. Merci à vous.
Chantait Superwoman.
La situation à Cuba, sous pression croissante, constante de l'administration américaine de Donald Trump, ne cesse de se détériorer, autant au plan économique qu'au plan humanitaire, et on peut même se demander jusqu'à quand le régime cubain va pouvoir tenir. On en parle avec François Larochelle, qui est un ancien diplomate du Canada. Bonjour, M. Larochelle.
Bonjour.
Donc, les relations entre les États-Unis et Cuba se sont tendues depuis le début de l'année?
Ben, en fait, elles se sont considérablement tendues. En fait, d'abord, Washington a imposé un blocus pétrolier fin janvier. Puis, les Américains ont adopté des vagues de sanctions contre des entreprises et des dirigeants cubains. La justice américaine a aussi inculpé l'ex-président cubain Raúl Castro de complot en vue d'assassiner des Américains dans une affaire qui remonte à 1996. Le 7 mai, Washington a adopté des sanctions pour que les entreprises étrangères rompent tout lien économique avec GAESA, qui est un conglomérat militaire cubain. En conséquence, des chaînes d'hôtels comme la canadienne Blue Diamond et les espagnols Iberostar et Melia, qui géraient des dizaines d'hôtels à Cuba en partenariat avec GAESA, ont annoncé la cessation totale ou partielle de leurs activités à Cuba. Dès le mois de mai, d'ailleurs, la compagnie maritime française CGM et l'allemande Hapag-Lloyd avaient déjà suspendu leur livraison vers Cuba. Et la Havane a annoncé dans les derniers jours la suspension des paiements par carte de crédit Visa ou Mastercard. Et évidemment, la ressource économique vitale pour Cuba, qu'est le tourisme, est durement touchée. En 2025, à peine 1,8 million de touristes ont visité l'île, le niveau le plus bas depuis 2002, si on exclut bien sûr les deux années là, de COVID. Et on sait, en février, les compagnies aériennes canadiennes Air Canada, Air Transat et WestJet avaient suspendu leur vol pour Cuba.
Vous avez parlé de GAESA?
Je pense que ça se prononce GAESA.
Oui, G-A-E-S-A. Mm-hmm. Quel est son rôle dans l'économie cubaine?
Bien, en fait, GAESA, c'est pour, je ne le dirais pas en espagnol, là, mais c'est pour le groupe d'administration d'entreprise SA, a été fondé au début des années 90. Quand il y a eu la chute de l'URSS, le régime cubain a décidé d'impliquer l'armée dans la survie économique du pays. Graduellement, cette organisation a pris le contrôle d'une très grande partie de l'économie. Ça va des stations-service à des supermarchés, des ports, des mines et bien sûr là, le tourisme et des magasins. Mm-hmm. GAESA ne rend de compte à aucun organisme, pas même à l'armée. On ne sait pas où sont placés ses revenus. Selon une enquête du quotidien Miami Herald, GAESA disposait en 2024 d'au moins 17,8 milliards de dollars d'actifs. Les bénéfices de cette structure-là de l'armée en 2023 équivalaient à environ 40 % du produit intérieur brut de Cuba.
En attendant le dénouement de cette crise, la souffrance de la population cubaine prend de l'ampleur.
C'est clair. Le renforcement des sanctions, notamment le blocus pétrolier, a engendré, comme on le sait, des coupures de courant et des pénuries. Le produit intérieur brut de Cuba pourrait baisser de 15 % en 2026, c'est énorme, et le taux de pauvreté atteindre entre 40 et 45 % selon des économistes. Cuba est désormais plongé dans une grave crise humanitaire. Tous les besoins de base de la population sont touchés, de l'alimentation au logement, sans oublier évidemment les transports. La situation sanitaire est critique. La pénurie de carburant, par exemple, empêche les gens de se rendre à l'hôpital. Même les Cubains qui parviennent à consulter un médecin ont du mal à se soigner, car dans les hôpitaux, certains médicaments de base sont introuvables. On en trouve, bien sûr, parfois au marché noir ou grâce à des proches qui reviennent de l'étranger. À la revente, le prix de ces médicaments est hors de portée pour beaucoup de Cubains.
Oui, c'est atroce. Mais qu'est-ce que veut Donald Trump?
Bien, évidemment, comme le reste, on ne sait pas trop.
Ouais.
Il estime, lui, que Cuba représente une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Il a déjà menacé à plusieurs reprises d'en prendre le contrôle. Son secrétaire d'État, lui, Marco Rubio, qui est un descendant d'immigrés cubains, est obsédé depuis longtemps par la chute définitive du castrisme. Cependant, en parallèle, Washington a ouvert ces derniers mois des négociations avec la Havane. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre hauts fonctionnaires, en particulier avec le directeur de la CIA américaine. Une autre rencontre s'est produite le 29 mai entre de hauts responsables militaires américains et cubains. Cependant, le coup de massue que représente le départ des entreprises étrangères pourrait probablement faire ou pourrait sans doute faire plier
les autorités,
ou en tout cas les forcer à accepter les investissements américains. Déjà, Trump a déjà lui-même tenté, lorsqu'il n'était qu'un mania de l'immobilier, de s'implanter sur l'île, autour bien sûr de ses d'hôtels, ou pour la construction, c'est toujours la même chose, d'un terrain de golf. Il a même enregistré la marque Trump à Cuba. Mais, il, comme on dit en bon québécois, il niaise pas avec le POC. Il commence déjà à pousser ses pions personnels. Un exemple, peu après l'annonce que la compagnie canadienne Sherritt, qui exploitait des mines de nickel et de cobalt à Cuba, et suspendait ses activités, on apprenait que la compagnie avait signé un accord préliminaire pour un rachat de 55 % de son capital par la société américaine Gillen Capital, qui est détenue par un certain Ray Washburn. Et comme par hasard, ce Washburn est un proche de Donald Trump.
Tiens, tiens. À quoi on peut s'attendre pour la suite?
Bon, écoutez, les négociations entre Washington et la Havane pourraient peut-être déboucher sur une entente, mais franchement, on peut en douter compte tenu de l'intransigeance du régime et de l'incompétence de l'administration américaine. Il faut donc s'attendre à ce que la politique américaine continue de se durcir. D'ailleurs, le gouvernement américain a, dans les derniers jours, placé sous sanctions économiques le président cubain, Miguel Díaz-Canel, et des membres de la famille Castro. Les experts n'excluent pas une action militaire américaine, mais ne s'attendent pas à une invasion à grande échelle. Ce sont les détails d'un éventuel changement de régime qui demeure la question à $1 million. Par qui remplacer le gouvernement cubain? L'opposition y est interdite et la société civile est réprimée. Et c'est intéressant, en ce qui concerne l'opinion américaine, il y a eu un sondage de la firme YouGov début mai qui révélait que 64 % des Américains étaient opposés à une guerre avec Cuba, une idée qui est soutenue seulement par 15 % de la population. Après le Venezuela et l'Iran, une troisième intervention militaire américaine risque de faire pas mal beaucoup pour Trump. Et donc, c'est un autre bourbier possible pour lui. Cependant, La Havane, c'est pas mal plus près de Washington que Téhéran. On verra évidemment comment ce dossier se développera au cours de l'été, qui, d'autre part, s'annonce particulièrement chaud sur la scène internationale.
Oui, pas que météorologiquement.
Non.
Non. Alors, c'est votre dernière pour la saison. Merci pour tout, François Larochelle. C'est toujours très éclairant lorsque vous venez en studio pour nous parler de l'actualité internationale.
J'essaie d'être utile.
Oui, vous l'êtes. Bon été.
Vous aussi.
Et on se retrouve sans doute au printemps, à l'automne. En septembre.
Allez, au revoir, bon été.
L'Opéra de Montréal et la gang Arambrou, un organisme qui favorise l'inclusion, l'émancipation et la participation culturelle des personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme unissent leurs forces pour présenter Carmen et la grenouille Colibri, une création originale alliant opéra, théâtre et engagement social. Et ce spectacle sera présenté les 13 juin et 14 juin à 19h le 13 et à 14h le 14 au Bain Mathieu, situé au 2915 rue Ontario-Est, c'est à Montréal. Et ce spectacle revisite l'œuvre de Georges Bizet dans un univers porté par l'écologie, l'inclusion et l'engagement citoyen. Pour cette relecture, Carmen prend les traits d'une chef syndicale déterminée à protéger la grenouille colibri, une espèce rare menacée par l'expansion d'une usine. Face à des promoteurs industriels sans scrupules, elle orchestre une mobilisation improbable où collègues d'usine, policiers et même YouTubeurs influents se retrouvent entraînés dans une vaste campagne médiatique. Dans une démarche inclusive, ce projet réunit sur scène des artistes neurodivergents, des choristes, des musiciens et des artistes professionnels. À cela s'ajoute la participation des chanteurs lyriques de l'Opéra de Montréal, Pierre Rancourt et Catherine Saint-Arnaud, et trois figures marquantes du paysage culturel québécois, Nathalie Coupal, Daniel Proulx et Marina Orsini, qui s'ajoutent à la distribution en images et paroles. Alors, cette création a été écrite par Pascal Blanchet à partir d'improvisation et la pièce met de l'avant une création vivante, ancrée dans le réel. Donc, je vous rappelle les dates, c'est très, très bientôt. Là. Le 13 juin, c'est pas demain, mais après-demain, à 19h, et le 14 à 14h, et c'est au Bain Mathieu, 2915 rue Ontario-Est. Il y a des billets qui sont en vente au coût de 20 $ pour les amis de la gang à Rambroux et 25 $, c'est l'admission générale. Je vous donne l'adresse, là. J'espère que vous avez un crayon parce que c'est pas évident pour avoir des billets. Mais j'imagine qu'on peut s'en procurer à la porte, mais je vous donne quand même l'adresse courriel du site pour avoir des billets. www.zeffy.com/fr-ca/ticketing/spectacle-annuel-3. Est-ce que je répète? www.zeffy.com/fr-ca/ticketing/spectacle-annuel-3. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère vous retrouver mardi prochain. Denis Martin sera avec vous à compter de lundi, 9h30. Profitez bien de ce week-end. Les Franco de Montréal commencent. Alors, profitez de tout. À bientôt.